Très bon début de soirée à toutes et à tous. Vous écoutez Radion, il est 21h passé de quelques secondes. Votre émission littéraire est de retour sur les ondes. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. 351e émission ce soir, émission au cours de laquelle nous allons vous proposer un aperçu des 50 écrivains et illustrateurs invités au deuxième salon du livre d'auteur organisé le 17 juin dernier par le Lions Club Centre-Est à l'Orangerie du Château d'Ancilfranc dans le Tonnerrois. Romancier et nouvelliste Jean-Pierre Canet, qui réside d'ailleurs à Vézelay, en était le parrain, tandis que Pascal Pujol, que vous avez pu entendre dans notre émission il y a maintenant 15 jours, en était l'invité d'honneur, Pascal Pujol, qui présentait notamment son premier roman intitulé « Petit plat de résistance », paru dans un premier temps aux éditions du Dilettante, mais aujourd'hui disponible au livre de poche. Alors, au programme de notre rendez-vous, ce mercredi 11 juillet, un entretien avec Denis Grosdanovitch qui signe aux éditions Grasset un essai intitulé « Le génie de la bêtise ». Et puis nous aurons l'opportunité, grâce à Raphaël Vinteuil, de revenir sur certains aspects historiques de ce magnifique château Renaissance d'Ancy-le-Franc qui a abrité donc ce deuxième salon du livre d'auteur qui était organisé, pour être plus précis, par le district Lions Club Centre-Est. Et je voudrais aussi, en ce début d'émission, remercier Cyril Lefebvre, libraire à Semur en Aussois, qui a été, on peut dire, un des artisans majeurs de cette belle manifestation chaleureuse et conviviale. Et nous aussi, on débute en convivialité et avec plaisir, avec une première pause musicale et on se retrouve juste après, notamment pour l'entretien avec Denis Grosdanovitch. Bienvenue sur Radion à bord de Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
I can't. livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous ouvrons ce compte-rendu du deuxième salon du livre d'auteur organisé par le district centre-est du Lions Club avec un entretien enregistré le 17 juin dernier au château d'Ancilfranc avec Denis Grosdanovic. Denis Grosdanovic revient sur le devant de la scène littéraire avec un essai paru aux éditions Grasset. Un essai intitulé « Le génie de la bêtise ». C'est en effet une flânerie savante, drôlatique, philosophique et éclectique au pays très peuplé de la bêtise. Denis Grosdanovic, qui finalement n'a fait que quelques kilomètres pour venir à Ancilfranc dans le Tonnerrois, puisque Denis Grosdanovic habite une maison dans la Nièvre. Denis Grosdanovic.
C'est tout près de Clamecy. C'est entre Clamecy et Vézelay, en fait.
Alors, Denis, vous êtes invité comme une soixantaine d'auteurs au deuxième salon du livre d'auteurs organisé par le Lions Club Centre-Est, ici, dans cet écrin du château d'Ancy-le-Franc, dans le Tonnerrois. Vous connaissiez ce château ?
Ah non, mais c'est magnifique. Et puis, j'aime beaucoup le petit village autour. Et j'ai fait un très beau voyage en venant ici, ça m'a, par les routes, c'était très beau.
Denis Grosdanovic, vous venez de faire paraître aux éditions Grasset un essai qui a pour titre « Le génie de la bêtise ». Belle figure de style à relever au passage.
Oui, tout à fait, un oxymore, un très bel oxymore.
Et c'est une flânerie dilettante, mais vous aimez bien, vous, écrivain philosophe, ancien champion de tennis, professionnel.
Oui, oui.
Et puis, vous avez accumulé comme ça beaucoup de gains sportifs. Pas financier,
c'est-à-dire, financier, pas trop, non. Mais parce qu'à l'époque, il y avait moins d'argent qu'à mon époque quand j'étais fort, malheureusement. Et c'est-à-dire, oui, j'ai fait du squash ensuite. J'ai été 5 fois champion de France de squash. Et puis, j'ai joué à un jeu qui s'appelle la courte paume, qui est le jeu français par excellence. Mais enfin, ça serait trop long d'expliquer ce que c'est. Si on me lance là, je ne m'arrête plus. Et c'est l'ancêtre direct du tennis. Ça joue avec des raquettes dans une cour de cloître reconstituée. C'est un très beau jeu, ancêtre direct du tennis. J'ai adoré ce sport et j'ai été 15 fois champion de France aussi. Mais là, c'est un sport confidentiel.
On est pas Alors, beaucoup. Denis Grosdanovic, pourquoi n'avez-vous pas prolongé cette carrière professionnelle de joueur de tennis ?
Ben ça, c'est ce que j'explique souvent et je l'expliquais dans un livre qui s'appelle « De l'art de prendre la balle au bon », publié chez Lattès et maintenant aussi au Point Seuil en poche. Parce que moi, j'aimais beaucoup le jeu lui-même, j'aimais beaucoup le sport lui-même et je me suis aperçu très vite en étant dans l'équipe de France qu'on voulait faire de nous des robots, qu'on voulait faire de nous ce qu'ils appelaient des tueurs, des killers. C'était le gain à tout prix. Et moi, j'adorais la phrase du baron Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Moi, j'étais plutôt, donc, finalement, dans un esprit amateur. J'avais envie d'être le plus fort possible, mais pas à n'importe quel prix. Et même au prix je crois que même avec des prix aussi faramineux qu'il peut y en avoir maintenant, je ne pense pas que ça m'aurait plu.
Donc à Denis Grosdanovic, qui avait trop de morale, en tout cas, qui n'était pas la morale du fric telle qu'elle a un petit peu pourri le sport.
Oui, alors ça oui, mais ce n'était pas un point de vue moral, c'était plutôt un point de vue esthétique chez moi. Parce qu'en plus, le fait de devoir se conformer à cette manière de jouer, changer le style, il ne s'agissait pas tellement d'avoir le beau geste, il s'agissait d'avoir le geste qui ennuie l'autre, qui bloque son jeu. Et donc ça amène à un anti-jeu, et moi je n'étais pas du tout dans cette optique.
Alors Denis, avec le génie de la bêtise, donc que l'on trouve toujours en librairie aux éditions Grasset, vous vous intéressez donc à la bêtise, le titre est suffisamment évocateur, mais finalement la bêtise dans sa subtilité, notamment la bêtise de gens qui sont pourtant très cultivés, voire hyper diplômés, c'est celle-là que vous traquez
Absolument,
en priorité.
Exactement, alors j'ai une formule, c'est que je trouve spécialement en France, avec le cartésianisme et nos grandes écoles réputées, et d'une façon générale, nous confondons l'agilité intellectuelle avec l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, elle doit être aussi faite de sensibilité, d'instinct et de sens commun. J'ai connu beaucoup de gens sortis des grandes écoles, parce qu'au fond, j'ai survécu par la suite en étant professeur de tennis dans un club UP parisien, ce qui me permettait de prendre cher de l'heure et donc de travailler peu. J'achetais du temps, c'était mon luxe à moi. Mais j'ai eu en leçon de tennis donc, pas mal d'énarques, de polytechniciens, des ingénieurs des mines et tout le reste. Et j'en ai conçu une grande frayeur pour l'humanité, parce que je me suis rendu compte que ces gens-là étaient extrêmement agiles intellectuellement et dans des domaines bien précis et pouvaient être de parfaits crétins dans le reste de la vie. Et ça, savoir que des gens de cet agabit pouvaient prendre des décisions aussi importantes m'a effrayé, parce qu'ils avaient rompu tout lien avec les choses concrètes, les choses immédiates, et d'un point de vue social, avec la base. Et donc, je trouve que c'est la tare française de façon générale. Et dans ce livre, je m'en prends beaucoup à cette sorte d'intelligence, en quelque sorte, qui n'est que de l'agilité intellectuelle.
Et c'est cette France d'en haut, de l'esprit, en fait, de,
alors,
et
c'est
du
pas
savoir.
Forcément le fait... En haut, oui, mais ça s'est
déconnecté
répandu.
Déconnecté de la base.
Voilà, et ça s'est répandu un peu partout. Hein. C'est-à-dire que maintenant, vous entrez dans n'importe quel... Parce que ça a quand même contaminé beaucoup de gens. De même que le sport professionnel a contaminé les amateurs, malheureusement, on pourrait dire que cette forme de logique un peu à base psychorigide et à base, disons, statistique, mathématique, a contaminé aussi les gens de la base. Vous rentrez dans n'importe quel petit café du commerce en France, vous avez un type qui ne tient ses informations que des journaux qu'il lit, plus ou moins, ou des informations télévisées, et qui va vous présenter un plan de résorption du chômage dans le monde entier.
Alors, c'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui, le savoir est facilement accessible par Internet, par quelques clics, et globalement, nous avons tous l'impression d'apprendre ou de savoir rapidement les choses. Mais finalement, c'est toujours de l'à peu près.
C'est parcellaire, en plus. Vous voyez, c'est très peu de choses, donc... En général, et en plus, maintenant, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations.
Les bobards.
Et
oui,
alors, personne ne va jamais vérifier. Mais alors, ce qui est de plus, maintenant que je voyage un peu dans tous les milieux, je me rends compte que même les journalistes, les dix spécialistes ou les experts ne vont pas plus vérifier que ces gens-là. Et donc, ils vont vous balancer des chiffres. D'ailleurs, il suffit de voir les experts entre eux, ils se balancent chiffres contre chiffres. Et puis voilà, qui a raison, bien malin qu'il dira.
Alors, dans une interview que j'ai lue dans un grand hebdomadaire français, Denis, vous parlez du président Macron. Vous dites il est intelligent, c'est indéniable, mais je subodore qu'il ne croit pas en ce qu'il dit.
Alors ça, c'est une simple impression personnelle. Je vous dirais qu'il n'y a pas que lui. Dernièrement, il n'y a aucun de nos hommes d'État que j'ai entendu parler, dont j'ai pu adhérer au discours, parce que moi, j'ai une oreille synthétique. Je n'écoute pas tellement les arguments, j'écoute la façon dont ils le disent. Je regarde leurs gestes, j'essaie de débusquer la marionnette. Et tous m'apparaissent tels des marionnettes. On a l'impression qu'ils ne font que réciter ce que leurs conseillers en communication leur ont dicté. Et de ce fait, on a vraiment cette impression qu'ils ne croient pas réellement à ce qu'ils disent. Ils ne font que de l'électoralisme, vous voyez. Et au fond, d'une certaine manière, on a l'impression que ces gens-là, leur seul but, c'est de se maintenir en place. Mais ils ne s'occupent pas, ils se préoccupent pas réellement des problèmes en eux-mêmes.
Votre livre s'ouvre... dans le génie de la bêtise, sur un lointain cousin qui se prénomme Valentin. Vous avez 7 ans à l'époque quand vous le côtoyez, vous allez en vacances auprès de lui, c'est en Touraine ?
C'est en Touraine, oui.
Et ce jeune garçon est considéré par la famille comme par le reste du village comme un simple d'esprit, et pourtant il semble terriblement doué dans son rapport à la nature. Il y a quelque chose de l'ordre de Saint François d'Assise. Vous
Exactement.
Êtes tous les deux assis au pied d'un arbre. Il y a un jet qui tournoie autour de vos têtes, et le jet vient sur son épaule et non pas sur la vôtre.
Oui.
Et d'ailleurs, il vous dit « Oui, mais Denis, s'il ne vient pas sur ton épaule, c'est parce que tu es trop... Je ne sais plus exactement, tu es trop excité dans ta tête et... »
Tu bouges trop dans ta tête.
Tu bouges
et
trop
ça lui fait peur.
Tête. C'est extraordinaire, cette formule.
Ah,
tu
vois
bouges
que
trop dans ta tête.
Je suis content que vous ayez remarqué ça. Ça prouve que vous êtes un très bon lecteur, parce que je suis très content que vous ayez remarqué ces passages dont je suis un des plus fiers. De m'être souvenu de ça, j'ai pris des notes à partir de l'âge de 14 ans. Et à 14 ans, j'avais commencé à noter cette histoire qui m'est arrivée à l'âge de... C'était en fait 8 ans, très exactement. Et oui, il me dit... en fait, ta pensée lui fait peur. Et donc, j'ai compris, grâce à ce simple d'esprit, qu'il existait une autre forme d'appréhension du monde qui passait plus par la sensibilité. Parce qu'effectivement, intellectuellement, il n'avait pas pu aller à l'école. Il ne pouvait pas apprendre à lire... Mais néanmoins, il avait une perception, il était en quelque sorte en harmonie avec la nature. Et au fond, à travers ce personnage, je pose le problème, surtout le fameux problème philosophique de l'imbécile heureux, quoi.
Alors, ce qui est aussi merveilleux, c'est la relation que Valentin a avec les animaux, même domestiques.
Ah oui, bien sûr. Alors, ça, c'est triste, parce que la fin de la nouvelle est quand même terrible, parce que il s'occupait beaucoup des animaux, c'est lui qui allait dans les tables. Alors, il avait non seulement un rapport privilégié avec tous les animaux sauvages, qui m'a appris à connaître dans leur milieu naturel, mais avec tous les animaux de la ferme. Et son frère aîné, qui était un paysan du type brutal, avait décidé pour le premier de faire un élevage en batterie. C'était un des premiers qui existait en France. Et lui, dès le moment où il est entré et qu'il a vu comment les veaux étaient parqués, vous savez comment on sait, dans des espèces de cages dont ils ne sortent jamais, et puis bourrés de vitamines et tout ça, et il n'a jamais voulu y rentrer. Il n'a plus voulu s'occuper des animaux dès le moment où il y a eu cet élevage en batterie. Et puis, petit à petit, il est devenu agressif. Donc, ils ont été obligés de le mettre dans un hospice et il y est mort quelques mois après, quoi. Donc, c'est une fin très triste.
Alors, il y a cette réflexion aussi sur l'aiguille de la montre.
Ah oui.
Ça, c'est formidable.
Ah oui, c'est étonnant. Il était donc à côté de moi et mon père venait de m'offrir ma première montre. Et donc, il regarde ma montre et il regarde la petite trotteuse et il me dit, mais elle revient toujours au même endroit. Alors, je lui dis, ben oui, elle tourne. Alors, il me dit, mais moi, j'ai l'impression qu'elle s'ennuie. Si j'étais toi, je la laisserais partir. Et ça m'est resté parce que j'ai pensé qu'à travers cette pensée-là, il avait une vision incroyablement intuitive et presque géniale de la façon dont nous nous laissons nous-mêmes emprisonner par les horloges. Le temps des horloges qui nous stressent sans arrêt, avec ce cadran qui finit par tourner dans notre tête, puisqu'on s'en aperçoit, quand on devient assez vieux, on se réveille exactement à l'heure où on avait décidé de se réveiller. Donc, l'horloge s'est intégrée à notre cerveau. Et ça fait un peu peur quand même, parce qu'on se dit qu'on est complètement, vous voyez, pieds
et poings. Donc vous nous invitez à essayer de mettre le temps un peu de côté,
à relâcher un peu, relâcher les liens, à essayer d'oublier un peu la petite trotteuse.
Alors ce qui est intéressant aussi, il y a une réflexion, bien sûr, intense sur la bêtise, mais il y a aussi une réflexion sur les animaux. Vous dites qu'il faut prendre le temps, par exemple, d'observer 3 ou 4 minutes par jour les chats, les chiens, les observer. Vous pouvez expliquer pourquoi, nos auditrices et auditeurs?
Par exemple, il y a un écrivain français qui écrit beaucoup sur le zen et sur le yoga, enfin sur toutes les méthodes extrêmes orientales de lâcher prise. Et il explique que, par exemple, il écrit un livre qui s'appelle le yoga du chat. Si on arrive à être en osmose avec son chat, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, déjà on pratique une forme de yoga parce qu'on se relaxe intérieurement.
Ça m'intéresse parce que j'ai 4 chats.
Ah oui, moi j'en ai deux.
Ça coûte peut-être moins cher que d'autres soins. Ah,
exactement, exactement. Et vous savez que c'est vrai qu'un chat, ça apaise. Quand vous dormez, par exemple, à côté, moi je dors avec mon chat, il vient dormir avec moi
la
nuit.
Nous allons tous savoir de la vie de
Denis Kozdanovitch. Sa présence est quelque chose d'incroyablement apaisant. Oui, c'est étonnant. Et d'ailleurs, on sait maintenant que dans certains hôpitaux, ils laissent entrer les chats chez les grands malades. Parce que c'est carrément thérapeutique.
Alors, vous décelez plusieurs catégories d'imbéciles. Il y a les imbéciles, ou c'est votre père peut-être aussi, vous a beaucoup initié au repérage de l'imbécilité. Lui, ça le faisait beaucoup rire. Hein. Il en jubilait. Alors, il y a les imbéciles relatifs, les imbéciles occasionnels. Il y a les imbéciles permanents, ça c'est terrible.
Oui.
Il y a les imbéciles brutaux, il y a les imbéciles pervers. Puis alors, il y a tout de même les imbéciles supérieurs.
Ah ben, ça, on vient d'en parler tout à l'heure. Mon père était un autodidacte, il était peintre, mais il était autodidacte au départ, mais très cultivé. Mais il était très respectueux des gens qui avaient fait des grandes études. Et quand, par le biais du tennis, parce que c'était un bon joueur de tennis, il a commencé à connaître tous ces gens dont j'ai parlé, il a déchanté. Mais lui, il adorait le théâtre, il adorait plaisanter, c'était un homme très aimable, très affable. Donc il s'amusait à se moquer d'eux. Et donc, ces gens-là, ils les faisaient parler devant moi pour me faire rire. Parce qu'il suffisait de les lancer, ces grands technocrates planificateurs. Il suffit de les lancer sur leur dada, ils étaient intarissables.
À l'instant, c'était Denis Kozdanovitch que nous avons rencontré le 17 juin dernier au château d'Ancilfranc, alors qu'il était un des 50 invités de ce deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est. Denis Kozdanovitch, qui est un ancien champion de tennis, de squash et de courte paume, reconverti dans la philosophie, les échecs et la littérature. Le génie de la bêtise, on y revient juste après la pause musicale que nous vous proposons. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Vous écoutez Wagon Livre sur votre radio locale, sur Radion. Bonne soirée à toutes et à tous. Nous revenons juste après la pause musicale que nous vous offrons.
Je m'approche du vide qui me guette, je plonge, je mets en premier la tête, mon cœur se recouvre peu à peu de bleu. J'ai peur d'oublier sa présence, de perdre le jeu de la confiance, les questions qui me rongent se perdent un peu. Mais c'est pas si facile, et face à toi je pile, oui je reste immobile. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la page et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme prendre une autoroute, oublier ce que l'on redoute. C'est quand je me retrouve seule que j'ai froid. J'avance au plus près de ce gouffre et je sens le vent qui me pousse. Je sais que je ne suis pas encore prête. J'essaye d'effacer mes angoisses, mes peines, ces horreurs qui me passent, mais s'enfoncent au plus profond de mon être. Mais c'est pas si facile, et face à toi je pile, oui je reste immobile. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la page et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme prendre une autoroute, oublier ce que l'on redoute. C'est quand je me retrouve seule que j'ai froid. Je rentre à contresens, perdu dans mon enfance qui s'éloigne encore, encore et encore. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la page et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la page et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme prendre une autoroute, oublier ce que l'on redoute. C'est quand je me retrouve seule que j'ai froid.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Le parfait crétin est celui qui se croit plus intelligent que tous ceux qui sont aussi bêtes que lui. C'est une citation de Pierre Dac que l'on trouve notamment dans le dernier ouvrage de Denis Grosdanovitch, un essai publié chez Grasset qui a pour titre « Le génie de la bêtise ». Denis Grosdanovitch, que nous avons rencontré le 17 juin dernier au château d'Ancy-le-Franc lors du deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est. Et d'ailleurs, Denis Grosdanovitch revient sur toute une série d'expériences censées être intelligentes, notamment, Denis, l'expérience qui consiste éventuellement pour gagner de la place à changer la forme d'un œuf de poule.
Ah, ça existait. Non, ça existait. Alors, mais ça ne marche pas.
Expliquez à nous.
Mais non, de mettre un petit appareil au cul des poules qui permettait cadre angulaire et qui permet de faire des œufs carrés. Parce que l'œuf, à la sortie du cul de la poule, il est encore un peu mou. Donc, il devenait carré. Mais le problème, c'est normalement, c'était pour mieux les stocker. Mais il se cassait tout de suite. Parce que la forme ronde, c'est pour résister aux pressions. Donc, c'était complètement idiot. Et en même temps, c'était oui, une idée planificatrice. J'y trouve un symbole de notre monde. On fait sans arrêt des espèces de décrets de ce genre qui ne marchent pas par la suite. Enfin, vous voyez, c'est très amusant, quoi.
C'est un peu comme vouloir mettre un homme enceint.
Oui, voilà.
C'est ça, exactement. La science s'y penche encore un peu.
Ben oui, bien sûr. Oui, on se penche sur plein de choses qui, à mon avis, sont complètement ineptes, mais bon.
Denis, vous parlez de la bêtise chez les Juifs, parce que finalement, oui. La bêtise est universelle.
Oui. Alors, non. Enfin,
chez les Juifs, c'est très particulier.
La bêtise chez les Juifs, on ne peut pas dire ça. C'est l'inverse. Parce qu'en général, les Juifs sont considérés, d'une façon générale, comme plus intelligents que la moyenne. Et ce qui est assez facile à comprendre, vu qu'ils se sont entraînés pendant des siècles et des siècles, ils étaient obligés dans les ghettos de s'entraîner à l'intelligence. Donc, d'une certaine façon, ils brillent dans tous les domaines abstraits. Mais de ce fait, c'est à cause de l'enseignement talmudique, qui était très, très répandu dans les milieux juifs. Et de ce fait, ils avaient créé une compensation philosophique qui était le simple d'esprit qui possédait la sagesse et qui, en fait, faisait opposition au rabbin. Enfin, il compensait l'intelligence abstraite du rabbin par son bon sens immédiat. Et alors, la force de la culture juive, c'est ça que j'explique, c'est que c'est la seule qui fait sa place à la bêtise. Et les Juifs n'ont jamais méprisé les idiots, les simples d'esprit. Ils compensaient le savoir intellectuel par ce savoir instinctif. Et donc, par exemple, les rabbins ne méprisaient jamais les idiots. Ils pensaient qu'il y avait toujours une sagesse à tirer d'un idiot. Et c'est ce en quoi la culture juive, à mon sens, était tout à fait exceptionnelle.
Denis, si vous le voulez bien, on marque une toute petite pause musicale. Je rappelle juste le titre de votre dernier essai, Le génie de la bêtise, c'est aux éditions Grasset. Qu'est-ce que vous nous préparez pour l'année prochaine? Alors, un autre travail, je crois.
Oui, alors là, je vais parler, c'est toujours un peu dans cette idée, tout ce que j'écris un peu en réaction à ce que j'estime être la folie planificatrice du monde moderne. Et donc, c'est sur les excentriques et les dandys. Bien. Excentricité et dandisme.
On se retrouve juste après la pause musicale, toujours à bord de Wagon Livre, pour cette émission spéciale consacrée au compte-rendu du deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est.
Je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat.
Quand le bonheur s'efface, quand l'amour se casse, quand la vie ne te sourit plus. Les passants que tu vois sont vivants pendant que toi, tu leur cries que tu n'en peux plus. Plus rien ne compense ton éternelle absence quand tu ne vois plus que des murs. Plus de soleil, d'orage, de fou rire ni de rage quand tu ne vois plus le futur.
Il suffirait qu'une main touche la tienne, que ton regard vers demain le comprenne.
C'est plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat.
Avant le premier signe, avant que tu t'abîmes, avant que tu ne perdes pied. Tout en œuvre, on ira vers ton bonheur. Qu'importe ce que ça doit coûter. Je t'emmène dans les coins où ça chante et ça résonne. Et personne,
personne
ne juge personne. On te reconstruira une vie. Pas à pas, tu guériras.
Il suffirait que ta main touche la mienne. Que ton regard vers demain le comprenne.
Tu m'entends, ça prendra le temps que ça prendra.
Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat. Tes bras baissés plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends.
C'est mon combat.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baissés plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Denis Grozanovic, on a parlé de ce cousin Valentin, hein, je fais simple dans le rapport familial. Vous avez croisé depuis d'autres simples d'esprit ? Il y en a eu beaucoup comme ça sur votre chemin, dans tous les univers, alors, culturels, littéraires, sportifs.
Des imbéciles, des imbéciles heureux, assez peu. Mais par contre, c'est d'ailleurs le thème de mon prochain livre, des excentriques, c'est-à-dire des gens qui sortent de la norme et qui se mettent à vivre en marge. Alors ce sont des marginaux, oui. Donc ça, j'en ai rencontré beaucoup. Mais en écrivant ce livre, c'est des gens
qui... Ça vous plaît, la marginalité ?
Ben oui, parce que c'est des gens qui instinctivement résistent à l'embrigadement, quoi. Ils résistent par exemple, un excentrique, on ne peut jamais en faire un esclave. On peut jamais le... Oui. Il y a une très belle nouvelle de Melville, Herman Melville, qui s'appelle Bartleby. C'est l'histoire de ce commis aux écritures qui refuse de... J'en traite beaucoup dans mon prochain livre. Il refuse de faire ce qu'on lui demande, mais il le fait tout doucement. C'est simplement, il ne peut pas faire autrement que de refuser. Mais l'intelligence de son employé, l'ensemble de l'employeur, est de le comprendre et de le tolérer.
Alors, vous faites référence à un fait divers. C'est en juillet 1982, Larry Walters.
Ah oui.
Alors, c'est formidable. C'est formidable. Ce mec est fou.
Ah oui, enfin un fou, non, enfin, c'est un excentrique, quoi.
Oui, la limite,
au sens, oui, alors ça, j'ai lu ça dans le bulletin des Darwin Awards qui existe aux États-Unis. C'est en général c'est posthume, hein. C'est remis, ce prix-là est remis de manière posthume. C'est tous les gens qui se sont livrés à une espèce d'invention complètement idiote et qui les a tués en général. Et lui, il avait eu l'idée de faire une chaise volante avec des ballons d'hélium qu'il projette à 2000 mètres d'altitude.
Il me semble que j'ai lu 5000 mètres, Denis, dans votre essai.
Oui, j'ai dû exagérer un peu là. Mais parce que depuis, on m'a fait observer que 5000 mètres, ça semblait impossible. J'ai donc dû un peu... Mais tant qu'il a été propulsé à une très grande hauteur, et presque à la hauteur où passent les avions. Donc il y a eu quelques pilotes qui ont repéré cet étrange objet volant non identifié. Et alors, c'est une histoire très drôle. Ça serait un peu long à expliquer.
Alors,
mais...
En plus, il est allongé, donc il décolle avec sa chaise. Donc,
oui. 45 ballons d'hélium.
45 ballons d'hélium. Oui. Il sirote un petit cocktail et il prend le risque de claquer les ballons.
Son idée, c'était de monter un peu au-dessus de son jardin pour faire un peu de vol au-dessus de son jardin. Et puis, avec son pistolet à plomb, de crever les ballons et puis de redescendre. Mais il avait mis tellement de ballons que ça l'a propulsé très haut. Il a commencé à dériver au-dessus de Los Angeles. Puis, il ne savait plus trop quoi faire. Et finalement, il a quand même crevé quelques ballons. Et il est redescendu. Et à ce moment-là, les fils des ballons qui avaient été crevés se sont emmêlés dans une ligne à haute tension. Et ça a créé une panne dans tout Los Angeles.
Mais cet homme est un miraculé.
Ah oui, lui, par contre, il a survécu. Mais ce qui est drôle, c'est de savoir que quand les pompiers sont venus le chercher avec la grande échelle, il est redescendu en bas, la police l'attendait et l'a menotté. Et il y a un journaliste qui lui a demandé pourquoi il avait fait tout ça. Il a dit « on ne peut pas rester assis toute la journée à rien faire ».
Ce qui n'est pas faux.
Non, c'est pas faux.
Denis, j'aimerais que vous nous parliez de votre copain Yann. Alors, c'est à Rodez. Ouais. Vous êtes un jeune homme. Yann vous conduit dans une sorte de laboratoire un peu secret, ouais. Souterrain. Mmh. Et là, alors, un garçon brillant qui a mis au point des petits robots d'un peu moins de 10 cm de haut.
C'est ça. C'était un petit génie en informatique.
Équipes, des petites équipes de football face à face qui font un réel match et lui commande à distance.
Oui, l'ennui, c'est qu'il n'arrivait plus à les contrôler, d'un seul coup, les petits robots devenaient indépendants. Alors, il y avait des bugs informatiques qui faisaient que d'un seul coup, ils se mettaient à diverger, quoi. Ils se mettaient à se battre entre eux, des choses de ce genre. Donc,
et là aussi, c'est une réflexion sur le fait que la machine, tout d'un coup, peut échapper au contrôle de l'homme.
C'est ce que j'ai tendance à penser. Je ne suis pas seul à avoir parlé de ça, mais... Et d'ailleurs, je raconte une autre histoire qui m'est arrivée, puisque je suis dans un salon littéraire à côté d'un ancien, un grand ingénieur, justement, en informatique, qui, à un moment, me dit « Mais tu te rends compte, on parlait des grands joueurs d'échecs opposés aux meilleurs ordinateurs. » Et à un moment, il me dit « Tu te rends compte si un jour les ordinateurs prennent le contrôle, ça sera horrible, on ne pourra plus les contrôler et tout ça. » Et il y avait un gosse de 12 ans qui écoutait notre conversation et qui dit « Non, mais c'est très simple de les arrêter. » Et lui, il le regarde et « Ah oui, et comment ?» Et il dit « Bah, il suffit de débrancher la prise. » Et alors, évidemment, il a dit « Oui, bien sûr, évidemment. » Mais j'ai vu dans son regard qu'il n'y avait pas pensé. Et l'ennui, c'est qu'on le sait tous, mais nous sommes tellement fascinés par cette intelligence artificielle, dont on parle beaucoup actuellement, qu'il est bien possible qu'on finisse par oublier l'alimentation. Et que, d'un seul coup, même si elle est en train de nous menacer, nous n'aurons pas le réflexe de débrocher la prise. Et je trouve que c'est une métaphore de notre monde moderne, où nous cessons de perfectionner notre machinisme presque à nos dépens, sans s'apercevoir qu'on pourrait peut-être un peu débrancher, quoi. Et donc, on voit bien que les machines nous oppressent de tous les côtés. Et entre autres, on continue de fabriquer les machines qui remplacent le travail des hommes alors qu'il y a du chômage. Ça me semble tout à fait une métaphore.
Mais il faudra toujours des hommes pour fabriquer les machines, Denis.
Oui, d'accord, mais il en faudra beaucoup moins. Donc, dans un monde où il y a surpopulation, c'est quand même invraisemblable.
Alors, je vous soupçonne d'être particulièrement pessimiste lorsque vous regardez l'avenir.
Ah oui, ça, c'est sûr. Oui,
très
ça,
pessimiste ça.
Pas à un niveau, disons, non, puisque j'ai l'impression qu'une fois que cette catastrophe dont je prévois l'arrivée, je ne sais, je saurais donner une date, après ça, peut-être le monde se renouvellera. Mais... la civilisation, dite civilisation telle qu'elle se promeut actuellement, je ne vois pas trop comment ça pourrait continuer comme ça. Une croissance indéfinie, ça me semble complètement...
Donc on va dans le mur en klaxonnant et gyrophare...
Oui, exactement.
Alors bien sûr, vous parlez de Flaubert et de ce couple de personnages, Bouvard et Pécuchet. Et vous parlez aussi de Jean-Paul Sartre qui s'est beaucoup intéressé à l'idée de la famille, qui s'est beaucoup intéressé à la personnalité de Flaubert. Qui, oui. Rappelons-le, Flaubert, l'auteur de ce roman Madame Bovary, je crois que c'est 1857.
Oui, oui.
Flaubert qui a eu une enfance un peu compliquée avec un père médecin qui le considérait comme un demeuré.
Oui.
Alors que Flaubert...
Il disait lui-même que c'était l'idole de la famille, d'où le titre de la biographie de Sartre, l'idole de la famille.
Ouais. Alors, Bouvard et Pécuchet, parangon de la bêtise.
Alors, c'est compliqué le livre quand on le lit réellement et attentivement comme je l'ai fait, parce que dans la première partie, seuls certains exégètes très attentifs l'ont remarqué. Dans la première partie, Flaubert... les a vraiment traités en imbéciles et s'est moqué d'eux. Mais dans la deuxième partie, il y a eu un glissement. On ne sait pas trop s'il en a été conscient. Ou d'un seul coup, c'est ça que j'ai voulu dire dans mon livre, c'est que cette forme de bêtise un peu naïve devient aussi une critique très mordante du monde planificateur qui est en train de se... ultra-planifié, qui est en train de se mettre en place déjà à la fin du 19e siècle. Donc il y a un glissement dans le livre. Et c'est assez intéressant.
En tout cas, écrire sur la bêtise, ça ne doit pas être facile. Les sources sont nombreuses.
Oui, parce que comme m'a dit mon père dès le départ, attention à l'effet boomerang. Écrire sur la bêtise, ça risque de te revenir en pleine figure, parce qu'on est toujours l'imbécile d'un autre. Et évidemment, moi, le palliatif à ça, c'est de précisément ne pas avoir peur du ridicule, ne pas avoir peur... de se marionnettiser soi-même, parce qu'au bout du compte, on est toujours ridicule à un moment ou à un autre. Et donc, principe d'humour en permanence, c'est un principe de précaution en quelque sorte, parce qu'au fond, on ne peut jamais légiférer sur rien. Il y a toujours un moment là où on est rejoint par la bêtise. Et d'ailleurs, c'est Sartre qui l'a dit à propos de Flaubert. Tout homme est bête à ses heures comme tout homme est mortel.
Denis Grozanovitch, est-ce que vous pensez qu'on est toujours le con d'un autre ?
Ben oui, fatalement, parce que ça, c'est ça le problème, c'est que comment qui va décider ?
Denis, vous savez,
c'est une question de critères.
Vous savez pour qui vous êtes un con ?
Oui, je le sais assez bien. C'est ceux justement que moi je considère aussi de la même manière.
C'était Denis Grosdanovitch à l'instant pour son essai « Le génie de la bêtise », un livre qui est un vrai bijou d'érudition et de charme, disponible en librairie aux éditions Grasset, « Le génie de la bêtise », que l'on peut lire sur la plage ou pourquoi pas à l'ombre d'un cerisier dans son jardin. En tout cas, on vous souhaite un bel été. Je vous informe que le numéro de Wagon Livre de ce soir est le dernier numéro de la saison, mais sachez que nous reviendrons bien évidemment dès le premier mercredi du mois de septembre avec tout un nouveau programme des interviews. Je rappelle aussi que le programme de Wagon Livre est à suivre sur le site d'archives de l'émission via internet en pianotant www.yannickpetit.fr. Tout de suite une petite pause musicale, vous êtes bien sur Radion, nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Final, t'as semé sans sonner des points d'interrogation. Je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. Toi, ma beauté, mon addiction, je rejoue notre partition. Je coupe les refrains. Oh, tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale en rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je gagne. État d'amour dans mes états, tous mes états d'amour dans mes états, dans mes états d'amour. Par essence, je suis un peu pyromane, je me brûle de tant de questions. Je te promets que si tu retrouves la flamme, j'éteins tes hésitations. Je me fais des films en noir et blanc. J'aurai l'Oscar de l'âme en peine. Je préfère largement l'histoire où tu m'embrasses au hasard. Je rejoue la scène. Oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Suite. suite de notre émission de compte-rendu du deuxième salon du livre d'auteur organisé le 17 juin dernier par le Lions Club Centre-Est au château d'Ancilfranc, nous y avons rencontré Raphaël Vinteuil. Raphaël Vinteuil qu'on avait d'ailleurs eu l'opportunité d'interviewer il y a quelques années lors d'un salon du livre à Tonnerre à l'occasion de la parution d'un recueil de nouvelles intitulé « Trois oies, deux marquises, un roi » qui traite de l'histoire du château d'Ancy-le-Franc. Et elle revient avec deux autres recueils de nouvelles, « Le clan des lézards » d'une part, d'autre part, « Vent de folie ». Tout de suite, sans plus tarder, faisons connaissance avec Raphaël Vinteuil.
J'ai fait une carrière de professeur de lettres, aussi bien dans le secondaire qu'à l'université, et j'ai interrompu cette carrière pour remplir une mission diplomatique culturelle à l'étranger pendant une dizaine d'années, ce qui m'a amené à m'intéresser à tout ce qui est l'art, aussi bien du point de vue de l'architecture que de littérature diverse et de tout ce qui peut toucher à des situations particulières.
Nous nous étions rencontrés en 2015 à un salon du livre à Tonnerre. À cette époque, vous présentiez « Trois oies, deux marquises, un roi », un recueil de nouvelles qui est vendu d'ailleurs au profit du festival Musique Ancy qui se tient chaque été au château d'Ancilfranc qui est le magnifique château pas bien loin de nous puisque nous sommes devant les écuries, les anciennes écuries du château là où est organisé ce deuxième salon du livre d'auteur par le Lions Club. Et donc, je rappelle, toujours disponible, « Trois oies, deux marquises, un roi ». Depuis, la collection s'est agrandie. Ce sont des petits livres, il faut le dire. Le second s'intitule « Le clan des lézards ». Alors là, vous revenez avec « Le clan des lézards » sur l'histoire du dernier Louvois, c'est-à-dire arrière petit-fils du célèbre Louvois qu'on a connu comme ministre de la guerre du Roi Soleil.
Oui, c'est exact. Cette nouvelle est basée sur l'histoire de cet adolescent qui a dû fuir la France au moment de la Terreur et qui est revenu parce que il a été rayé de la liste des émigrés et il a retrouvé son château complètement dévasté puisque le château avait été déclaré bien national. Heureusement, avec son retour, les choses ont évolué. Cependant, sa mère, qui l'avait emmené en exil pour éviter la Terreur, elle n'a pas pu revenir avec lui. Elle est toujours sur la liste des émigrés. Le jeune Louvois veut essayer de la faire rayer de cette liste des émigrés en vain, bien qu'il s'adresse à des personnages du directoire de cette époque post-révolutionnaire. Elle reviendra et quand elle reviendra, il y aura un grand moment d'émotion parce que dans un premier temps, il ne la reconnaît pas. Il lui demande si effectivement elle est bien madame sa mère parce que l'émigration l'a énormément changée et il y a une reconnaissance qui ensuite est apportée à cette femme très marquée par cette épreuve et qui lui est rendue par tous les gens, tous les métayers, tous ceux qui habitent ce domaine d'Ancy-le-Franc. Et le fils en est à ces gens très reconnaissant. Il entreprend beaucoup de choses pour faire opérer la transition entre une vie aristocratique telle qu'elle était basée avant la Révolution vers une vie beaucoup plus globale de la commune d'Ancy-le-Franc en créant des forges, en créant un moulin automatique pour, c'est pas pour faire pour la farine. C'est un ingénieur, c'est un inventeur, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur et qui a vraiment une vue de longueur d'avance sur son époque et sur la façon dont il faut gérer une commune.
Merci Raphaël Vinteuil pour toutes ces explications. Alors, Vent de folie, c'est le troisième texte. Donc, c'est une nouvelle. Alors, c'est une nouvelle assez longue, finalement.
Les nouvelles sont, disons, 130, 140 pages. Ce sont des nouvelles un petit peu étoffées, dirons-nous. Mais ces personnages qui sont des personnages de la famille de Louvois sont des Louvois peu connus, sur lesquels les renseignements historiques sont assez maigres. Et il est nécessaire de leur donner un peu de chair, un peu de vie. Voilà, donc il faut quelques pages supplémentaires.
Alors, Vent de folie, alors un petit mot sur Vent de folie.
Alors, Vent de folie, c'est une folie alors, précisément.
Alors, on est à quelle époque, là?
Alors là, on est à la 1760, exactement. En 1760, ce jeune Louvois a 20 ans et il est caserné à Brest parce que les Louvois sont des militaires. Il s'ennuie beaucoup. Et il ne se sent plus très bien dans cet habit de noble militaire qui lui semble un peu trop petit. Il y a aussi sa jeunesse qui parle. Et c'est l'époque où on est très amoureux de jeux. Il y a du jeu à la cour, il y a des tripots, il y a du jeu partout. Et effectivement, pour passer le temps, eh bien, il se met au jeu. Seulement, il a... des émoluments qui sont ceux de son domaine ou de ce que son père lui laisse sur son domaine et puis ceux du roi en tant que militaire, mais ils arrivent souvent ou ils n'arrivent pas d'ailleurs, c'est très irrégulier. Et il n'empêche que le jeune Louvois joue, fait des billets à ordre qu'il ne peut pas honorer. Et évidemment, ça tourne mal pour lui. Il est obligé de quitter Brest en catimini, avec son valet, Quentin. Ils échangent leurs vêtements pour essayer d'éviter d'être reconnus. Mais la fuite est difficile. Au final, il gagne en 6 francs. Le père du jeune Louvois, finalement, trouve que cet habit de valet lui sied très bien, lui donne un air de personnage humble, comme il aurait toujours dû être et que manifestement il n'est pas. Et seulement les choses se gâtent lorsqu'il est question de la réception de Madame l'intendante, qui est l'un des personnages les plus importants du duché de Bourgogne et qu'évidemment on ne peut pas recevoir en habit de valet. Ça ne va vraiment pas. Alors le jeune Louvois, auquel son père refuse quelques argent pour se faire un habit, trouve un subterfuge assez original qui fait qu'il se présentera avec beaucoup d'insolence au pied du carrosse de Madame l'intendante, doublera son père et se verra puni pour toutes ses insolences d'une menace de mariage extrêmement rigoureuse.
Voilà, vent de folie, quoi.
Vent de folie. Voilà.
Donc je rappelle les titres de vos trois ouvrages, Trois oies, deux marquises, un roi, Le clan des lézards et Vent de folie que vous venez d'évoquer à notre micro. Avant de nous séparer, Raphaël Vinteuil, vous avez des sources documentaires bien précises. Vous mélangez la réalité historique et la fiction. Vous déformez beaucoup. Vous essayez de ne pas trop trahir l'histoire.
J'essaie, dans la mesure où j'ai des documents, de ne pas trop trahir l'histoire, de donner corps au personnage sans trop trahir. Mais souvent, les parties, il y a des parties qui sont des fictions, parce que ces personnages, on a très peu d'éléments et il faut arriver à les intégrer dans leur époque. Alors, je fais des recherches sur l'époque. j'essaie d'inventer quelque chose qui cadre avec l'époque et j'insère ainsi mon personnage dans l'histoire.
À l'instant, c'était Raphaël Vinteuil que nous avons rencontré le 17 juin dernier à l'Orangerie du Château d'Ancilfranc lors du deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est. Je rappelle donc les deux plus récents recueils de nouvelles de notre interlocutrice, Le Clan des Lézards et Vent de Folie. Mais je n'oublie pas de rappeler le titre du premier recueil il y a quelques années et ce recueil est toujours disponible à la vente, notamment au Château d'Ancilfranc. Trois oies, deux marquises, un roi. Et puis, bien sûr, je mentionne l'essai de Denis Grozanovic que vous avez pu entendre en début d'émission, Le génie de la bêtise, aux éditions Grasset, que vous trouverez bien sûr chez tous vos libraires, dans les bonnes librairies. Et Dieu sait s'il en existe tout de même quelques-unes encore dans notre département de Lyon et aux quatre coins de la France. C'était ce soir, mercredi 11 juillet, le dernier numéro de la saison pour Wagon Livre. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, où que vous le passiez, et surtout un très bel été empli de lectures et de découvertes et de plaisir. En tout cas, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc pour la rentrée. Wagon Livre reviendra sur les ondes de Radion dès le mercredi 5 septembre prochain à 21h. Et puis en attendant, bien sûr, si vous voulez vous occuper, vous pouvez vous rendre sur le site d'archives de votre émission littéraire en pianotant le www.yannickpetit.fr. Un grand merci à Roman qui était en ma compagnie et qui m'a aidé notamment à monter cette émission. À toutes et à tous, bel été, bonne soirée, au revoir et rendez-vous début septembre.